Vous écoutez Debout là-dedans, le podcast des 7e assises pour la ville de Nanterre.
Debout là-dedans. Alors allons debout là-dedans.
Debout là-dedans.
À chacun son avis, mais en ce qui me concerne, s'il y a une seule chose dans la vie qu'on puisse faire tous les jours sans jamais se lasser, c'est bien d'apprendre.
C'est une question pas facile, mais je vous la pose quand même. Peut-on apprendre à tous les âges? Et ça tombe bien, je crois qu'on a avec nous autour de la table une de vos professeurs.
Alors, est-ce qu'on peut apprendre à tous les âges? À mon avis, oui. Je pense qu'on n'apprend pas toujours de la même manière selon l'âge qu'on a, selon les bases qu'on a. Mais je pense que quelqu'un qui a envie de se lancer, apprendre l'espagnol à 95 ans, c'est possible. Je pense aussi qu'un enfant, même en bas âge, selon les capacités qu'il a, il peut apprendre des choses tout à fait étonnantes, alors qu'on pourrait croire qu'un enfant de 3-4 ans pourrait pas apprendre ça. Donc,
c'est un problème d'être vieux ?
Bah, quand on est trop âgé, en fait, on peut pas apprendre dans le même rythme.
Pourquoi ?
Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que, en fait, parfois, quand on répète les choses, on y arrive mieux. Et donc, quelqu'un qui a 60 ans et qui a répété 40, 50, 60 fois son plat de lasagne ou son morceau de piano, il cuisinera ou il jouera mieux que vous, peut-être.
Genre, on peut pas apprendre, genre, un petit gars à 3 ans, genre, on peut pas apprendre des trucs sur l'espace et tout, parce que sinon, bah, il va rien comprendre. Et quand on est jeune, bah, on a plus de temps pour apprendre des choses.
Mais quelqu'un qui a déjà appris quelque chose, ce sera plus simple pour lui d'apprendre quelque chose en rapport avec ce qu'il sait, non ?
Bah ouais, bah oui.
Moi je pense pas qu'on est trop vieux pour apprendre, parce qu'à tout moment on peut apprendre. Moi personnellement, pour ma part, mes parents continuent d'apprendre des choses de la vie qui étaient logiques déjà pour eux, mais en mettant des mots avec leurs enfants, bah ça les... ils prennent plus en compte. Ils prennent plus en compte ce qu'il y a autour d'eux et tout, et ça fait des bons... ça crée des bons débats.
Je m'appelle Noah Ferrier, je suis en terminale générale et en ce moment je participe au concours d'éloquence pour les assises Speak Loud. Le jour J, moi je devrais défendre l'expérience donne-t-elle toujours raison à la négative.
J'aimerais bien potentiellement faire avocat plus tard, donc je me suis dit que ça pourrait être un entraînement ou une expérience à vivre.
Voilà. Moi j'ai grandi dans une éducation où... les aînés sont très importants dans un sens où ils nous apprennent tout le temps, et justement ça revient un petit peu au même, cette notion d'éducation et d'apprendre continuellement, parce que pour moi, en tout cas dans cette éducation là, on apprend chaque jour et de tout le monde et d'un peu tout en réalité.
L'expérience c'est un peu un programme, et que quand on rencontre une situation, en fonction de l'expérience, on va réagir en fonction d'un programme qu'on aura défini, en fonction de nos expériences. Mais du coup, à chaud, je dirais que si on n'a pas eu le bon programme, on pourrait mal réagir en suivant justement l'expérience.
Donc c'est très important, les aînés, ce qu'ils doivent nous offrir. Et ce que je trouve, moi, de mon point de vue à moi, en dehors de l'éducation, c'est que les plus jeunes ont aussi à apporter aux aînés ce qu'on met moins, disons, en lumière, je trouve, que tout le monde a un peu à apprendre à tout le monde et que tout le monde peut apprendre.
Non, c'est culturel et malheureusement, les idées de cons, comme vous dites, c'est des choses qui se passent de génération en génération. Et j'ai rencontré des jeunes de mon âge, voire encore plus jeunes, qui avaient des idées de grands arriérés.
Un petit enfant qui a l'habitude de se faire arnaquer par ses parents. Ah, fais si, t'auras des bonbons, qui a jamais les bonbons. Est-ce qu'il va avoir confiance aux autres? En fait, l'expérience commence dès la naissance.
C'est très philosophique.
C'est comme les plantes, si on les arrose mal, elles meurent ou deviennent de la mauvaise herbe.
Est-ce qu'on devient vite trop vieux pour apprendre?
Pas du tout. Il n'y a aucun âge pour apprendre. C'est une question de volonté, de foi et d'ouverture d'esprit.
Alors, messieurs, dames, gardez les yeux ouverts et les oreilles attentives. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de découvrir la seconde thématique des assises. Apprendre à tous les âges. Debout là-dedans.
Vous écoutez Debout là-dedans, le podcast des 7e assises pour la ville de Nanterre.
Le deuxième temps fort des assises pour la ville a eu lieu au campus Saisy, une école d'ingénieurs située à deux pas du parc du chemin de Lille et des bords de Seine. Il a été introduit par Madame Boudjemaï, une fois n'est pas coutume.
Ce défi-là qui s'offre à nous, qui est devant nous, dans une ville comme Nanterre, s'ajoute au défi qu'il y a de l'éducation pour tous et par tous et de tous les instants, et quel que soit l'âge, s'ajoute à ça aussi, en tout cas pour la ville de Nanterre, une problématique qui, moi, me paraît essentielle, c'est qu'en plus, on est entouré de villes qui ne font que de l'entre-soi. Et comme ce sont des villes qui ne font que de l'entre-soi, la question éducative, elle est à un niveau extrêmement élevé d'exigence de la part des familles, mais ça, c'est valable pour tout le monde, quels que soient les lieux, les gens, etc. Je connais pas une famille qui ne veut pas de l'excellence pour ses enfants, et pour soi-même, et dans sa carrière professionnelle, c'est pas le problème, mais c'est que quand, en plus, autour de nous, on n'est que dans de l'entre-soi, alors nous qui, en plus, posons la question éducative au sens global, qu'elle soit du côté de l'enfance, du côté de la jeunesse, du côté des adultes, de la formation, etc., comme étant aussi une valeur ajoutée au fait de faire de la rencontre et de la conformation et de faire un travail d'élaboration avec ses propres pairs. Alors quand ses propres pairs sont les mêmes, pour moi ça s'appauvrit, à Nanterre ça s'enrichit. Et aujourd'hui maintenant, dans le défi qui nous est donné, c'est comment on continue ensemble, est-ce qu'on est prêt à continuer ensemble sur ce défi-là aussi qui est comment ensemble continuer cette ville apprenante et cette ville éducative en gardant toutes nos populations dans Nanterre évidemment. Voilà. Vaste programme, et si vous avez la réponse, merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Merci. Merci beaucoup.
En ligne et en plénière, les Nanterriens volontaires ont convergé sur la thématique de l'apprentissage sans limitage. Je vous propose d'écouter un résumé de leurs réflexions, qui, je l'espère, inspirera les vôtres.
La table numéro 1 a parlé des assistantes maternelles, aider les personnes à devenir assistantes maternelles.
Il y a un premier sujet qui était la lutte contre l'isolement social. Des personnes adultes qui ont une maladie mentale, les enfants qui ont une maladie mentale, il y a plusieurs structures pour les accompagner, mais dès le passage à l'âge adulte, il n'y a plus rien.
On y est plutôt à l'instant, un certain évitement d'une partie de la population. Alors, à partir du collège, fin d'école primaire, ça commence à se remarquer. Donc, l'évitement, une fuite, quelque chose qui plaît pas à tout le monde dans notre ville.
Eh bien, l'idée, c'était de travailler sur des formats de parrainage, de tutorat, d'aider l'accès aux stages, l'accès aux formations des jeunes, des grands adolescents et des jeunes adultes pour les soutenir dans cette phase-là de leur vie.
Il y a des gens qui vont voir des spectacles pour enfants à Puteau parce qu'il y a plus de choses qu'à Nanterre.
J'ai remarqué que il y avait des voisins qui du coup préféraient aller sur les événements proposés par cette ville plutôt qu'à Nanterre parce que voilà, ça pourrait être renforcé au niveau de la culture.
Du coup, on a évoqué le lien intergénérationnel en remarquant qu'il y avait peu d'opportunités de partage à ce niveau-là, alors que faire la ville, c'est la faire tous ensemble. Et on se posait la question, on a été un peu superficiel sur le sujet, mais de voir comment les centres de loisirs, les écoles, les collectifs de seniors ou les EHPAD pouvaient se rencontrer, à quelles occasions, etc. Mais sans aller vraiment plus loin.
En considérant que l'apprentissage était un moyen d'émancipation, en fait, était au service de l'émancipation, ou devrait en tout cas être au service de l'émancipation. Et de ce fait, aussi le besoin d'expliciter l'utilité, le sens des apprentissages pendant l'apprentissage pour donner des perspectives finalement aussi concrètes et de l'intérêt d'apprendre, d'aller à l'école, voilà. Vraiment ouvrir des perspectives.
Et puis le moyen peut-être d'atteindre cette émancipation, c'est de travailler très très jeune sur le statut des enfants, mais sur le statut de tout le monde dans la ville, c'est-à-dire quelle marge de pouvoir j'ai, dans quel cadre je peux agir, quel devoir j'ai, bien sûr, merci Juliette, quel devoir j'ai, voilà, toutes ces choses-là qui font le statut et le travailler en fonction des capacités de chaque âge, mais commencer très tôt à responsabiliser chacun dans cette ville.
En tout cas, je pense que la question des séjours de vacances, elle recoupe les deux domaines, parce que typiquement, un séjour de vacances, c'est aussi un vecteur d'émancipation. Du coup, j'appuierai là-dessus en disant que pour avoir de bons séjours de vacances et aussi pour avoir de bons centres d'accueil des enfants dans le périscolaire, il faut de bons animateurs et de bonnes animatrices. Et pour avoir de bons animateurs et de bonnes animatrices, il faut bien les former, pas uniquement avec un simple BAFA. Parce que je pense que quand on est une ville qui se revendique comme étant dans l'émancipation et qui prône une vision socio-éducative très forte dans la prise en charge des enfants en dehors de l'école. On se doit d'avoir des animateurs qui n'ont pas un simple BAFA en poche, mais qui ont aussi une vision de l'éducation. Et malheureusement, je trouve que ça se perd un peu ces derniers temps. Dans les derniers animateurs et animatrices qui arrivent sur le terrain, ils sont pas toujours très bons, faut être honnête. Et sauf que c'est pas de leur faute, c'est de la faute à leur formation qui n'est, je pense, pas suffisante.
Et pour rebondir sur la formation, j'ai identifié qu'il y avait des sujets de communication adulte-enfant qui pouvaient être importants à mettre en place dans les sujets de formation. Et aussi des sujets sur les émotions, parce que c'est quelque chose, on se rend compte dans nos générations, que les générations passées n'ont pas du tout travaillé. Et je pense que tout ça, ça peut être constructeur pour l'avenir, en fait. Oui, et moi, je souhaite rebondir par rapport à la formation des personnes qui s'occupent des enfants, que ce soit en crèche, à l'école, dans le périscolaire. On en a parlé tout à l'heure pour les animateurs, mais je pense qu'il y a un besoin de soutien pour les professeurs, toutes ces personnes qui prennent soin de nos enfants, justement sur les sujets qui permettent aux enfants de développer leur bien-être. Et pour que ces personnes-là puissent être elles aussi développer leur bien-être et se sentir avoir les outils pour accueillir ce que vivent les enfants et leur apporter ce dont ils ont besoin. Et j'ai entendu aussi il n'y a pas longtemps parler de tout ce qui est classe autonome qui permet justement de plus respecter les besoins des enfants sur les temps d'apprentissage.
D'accord.
C'est des classes qui permettent d'avoir moins de cours magistral et beaucoup plus d'ateliers. Beaucoup D'accord. plus de pratiques qui va permettre de bouger sur différents ateliers pour avoir justement cet aspect physique pendant les cours et de se mettre eux en action plutôt que d'être passifs.
D'accord.
Tant que certains animateurs n'ont pas la formation la plus appropriée pour participer à un programme pédagogique le plus optimal possible qui permet aussi aux enfants de vivre en société et aussi de se sentir épanouis. Mais je veux dire que la formation, elle est théorique et que la formation se peaufine.
Et je voulais rebondir aussi sur le sujet de l'alimentation. Une alimentation de qualité bio et locale, c'est quelque chose qui peut être attractif aussi pour les parents, les enfants D'accord. et pour le bien-être de la ville.
J'ai une fille qui adore faire la cuisine, qui n'a pas pu participer au programme de cuisine. Je suis même allée voir le directeur pour lui dire « Ma fille aime la cuisine, elle aimerait offrir, mais il n'y a pas assez de place. Il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas assez de place. » Parce que je veux dire, à travers l'activité cuisine, il y a certains enfants qui peuvent trouver une vocation. Et moi, je vois qu'au chemin de l'île, il n'y a que 20 places.
On se disait qu'il pourrait être intéressant d'inviter les enfants à animer des collectifs au sein de leur structure. Par exemple, proposer, participer à la programmation des activités, des choses comme ça. S'inspirer de projets déjà réalisés dans la ville où les enfants ont été amenés à réfléchir sur les projets d'aménagement du quartier aussi, c'était une idée qui a circulé entre nous. Les faire être dans l'ouverture, dans la découverte de l'extérieur et pas tout le temps enfermé dans le centre de loisirs, dans l'école, à la maison, mais aller vers les autres. Pour la petite histoire, on se racontait qu'une petite fille avait dessiné le chemin de chez elle à l'école et elle n'avait représenté que des poteaux, tout simplement parce qu'elle avait 6 ans et qu'elle ne voyait que ça pour aller, c'était ses repères.
Alors dans les idées fortes, on avait aussi le fait de permettre à chacun de développer ses talents en fait et de les découvrir, travailler la connaissance de soi finalement au-delà de la connaissance des apprentissages, et ça rejoint un peu la thématique des émotions aussi. Et de la partie plus physique, parce que dans les apprentissages, le fait d'être assis, immobile, aujourd'hui, dans les entreprises, on pratique les réunions en marchant. Enfin, il y a des nouvelles formes parce qu'on sait que ça met en place d'autres fonctionnements dans le cerveau. Et finalement, il pourrait y avoir des ponts aussi entre pourquoi j'apprends et qui j'ai envie de devenir et de qui je peux m'inspirer.
Ouvrir un peu plus l'université, si c'est possible. À l'idée d'éducation permanente. La dernière idée forte, et ça rejoint les émotions et les sensations que vous évoquiez, c'est la place de l'activité physique. Alors j'ai fait exprès de pas dire sport, parce que là il y a deux visions très différentes entre le sport et le sport compétition et l'hygiène par l'activité physique. Donc il faut arriver à jongler avec ces deux idées.
On avait l'idée d'un concours d'éloquence pour les enfants aussi, pour leur apprendre finalement à s'exprimer, à exprimer qui ils sont, à s'exprimer aussi parce que plus tard dans la vie ils auront besoin de se présenter, de partager leurs idées. Donc ça pouvait être une idée très concrète. D'un passeport ou d'un carnet d'action réalisé en dehors du temps scolaire. L'idée, c'était de finalement pas tant de donner des bons points pour pas reproduire le système de l'école, mais de se dire favoriser les actions de la ville et inciter les enfants à justement aller pratiquer des activités, aller faire des ateliers créatifs, et que après finalement ce passeport ils puissent à chaque fois tamponner quand ils ont fait quelque chose et plutôt se dire voilà, cette année j'ai fait tout ça, j'ai eu l'occasion de découvrir peut-être des talents créatifs que j'ignorais.
La place du sport à l'école, elle est insuffisante. C'est un phénomène culturel vraiment français. Et je me demande si la ville pourrait pas être un des acteurs d'une transformation de cette philosophie pas très ouverte sur l'activité physique en France, où on privilégie l'intellectuel au matériel et au physique.
Et enfin, on avait poussé les enfants à avoir envie d'entreprendre, et en faisant peut-être des partenariats entre les entreprises, les établissements, les associations, peut-être faire venir davantage des professionnels dans lesquels ils pourraient se reconnaître, et aussi sur cette partie entreprendre qui rejoint l'autonomisation, en fait, le fait d'être responsable de sa vie.
Alors voilà, en plus, on est dans une année JO. Et tout ça pour arriver à une proposition. Le constat qu'on fait sur la ville de Nanterre, c'est que il y a des propositions d'éducateurs sportifs qui vont dans les écoles, mais uniquement sur des projets, c'est-à-dire sur des situations de découverte et pas des situations pérennes. Or, la découverte de son corps, etc., c'est quelque chose qui doit se construire dans le temps, qui demande des compétences que n'ont pas les enseignants, sauf les profs de PS, évidemment, au collège ou au lycée. Et donc, est-ce que la ville pourrait faire un effort pour aller, par exemple, donner du temps de travail aux éducateurs sportifs des clubs qui ont du mal à finir les fins de mois parce que ils n'arrivent pas à faire leurs 35 heures. Voilà.
EB s'en fait des idées. Je le rappelle pour tout le monde, les assises ont pour objectif principal d'alimenter la municipalité de vos bonnes idées pour améliorer ensemble l'action publique. Et ce soir-là de novembre 2023, le nouveau maire Raphaël Adam était là pour conclure ce deuxième temps fort.
Merci à tous déjà d'être venus, de vous être mobilisés ce soir pour répondre à cet enjeu qui est crucial pour nous. Il est crucial aussi pour vous, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Effectivement, c'est à la fois la question de l'avenir de nos enfants, mais aussi plus largement la question de l'apprentissage tout au long de la vie. Alors c'est vrai qu'on est moins allé sur ce point-là. Enfin, j'ai entendu que cette table-là avait bien travaillé ce sujet-là, cette question de la VAE, de comment on acquiert et comment on se forme aussi tout au long de la vie. Et sur tous les aspects de l'émancipation de l'enfant, de l'adulte, la question de la gestion des émotions, mais aussi la question de comment on accompagne les parents. Ça, c'est ce que j'ai entendu aussi dans les tables, qui est un point effectivement crucial pour nous aussi, de travailler la démarche d'intergénérationnel, parce qu'effectivement, je pense que c'est sur un de ces volets-là. Aujourd'hui, on a un réel besoin aussi de développer cette transmission. On le voit dans le mode de fonctionnement des jeunes, sur la mobilisation, sur des éléments collectifs, de comment on va s'associer. Aujourd'hui, il y a un repli aussi qu'on vit un peu depuis la période du Covid. Donc, comment on peut aller dépasser ça? Et je pense que cette liaison qui est le lien intergénérationnel, qui permet d'aller toucher finalement l'altérité avec d'autres, de partager ça, c'est des éléments aussi qui peuvent nous permettre d'arriver à le développer. Alors sur l'offre, il y a déjà des choses qui existent effectivement à Nanterre, je vais pas refaire le listing. Je pense par exemple sur la question de la vue à hauteur d'enfant tout à l'heure, et de comment aussi un enfant va se projeter dans son environnement, dans sa ville. Et il y a des démarches, notamment on a le CAUE à Nanterre qui accompagne aussi dans le cadre scolaire et dans le cadre du périscolaire sur toute la construction, notamment sur les cours d'école, puisqu'on a toute une démarche de végétalisation autour des cours d'école. Donc comment on travaille ces sujets-là et comment l'enfant est au cœur de cette démarche-là. Nous, on l'a mené dans le cadre de l'école que je suivais sur Pablo Neruda. On a eu tout ce travail-là avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec les enfants, puisqu'il y a certains... Il y avait deux classes, nous, qui ont travaillé ce sujet-là, de comment vous projetez dans cette classe demain, comment vous projetez dans cette cour, pardon, qu'est-ce que vous attendez de cette cour, comment elle doit être adaptée aussi à vos besoins, et d'avoir cette réflexion-là et cette vue-là, elle est importante, parce que du coup, ça permet aussi de se mettre sur la question du besoin, de qu'est-ce que les enfants ont envie de faire, et tout ce rapport-là sur la formation aussi, des accompagnements au-delà de la formation BAFA. C'est aussi comment on apprend à former les autres, comment les animateurs aussi, nous, dans les centres, peuvent être là pour former aussi ces jeunes qui arrivent en BAFA, parce que faut pas se raconter l'histoire aussi, il y a une question de recrutement, il y a une difficulté aussi à recruter
ces profils-là. C'est pas forcément des postes qui sont hyper rémunérateurs, dans lesquels les jeunes vont rester. Donc c'est souvent un parcours, une étape. Et donc comment on fait de cette étape-là aussi? À un moment, on peut se former justement un peu en la formation en situation de travail, c'est ce qu'on disait, parce que il n'y a pas que la formation, on va prendre un cours et puis après on le restitue. Il y a comment dans l'action, effectivement, on peut derrière aller accompagner les jeunes, à la fois le jeune qui est en situation d'éducateur et l'enfant aussi, à se construire et comment on construit des projets ensemble. On voit qu'en réalité, l'ingéniosité, elle arrive très rapidement en réalité avec les enfants. Ils sont capables de nous apporter des choses dans la construction de leurs attentes et de ce qu'ils veulent faire. Mais après, c'est d'arriver à avoir cette agilité-là. C'est toujours ça la difficulté. C'est d'être capable de s'adapter à ce besoin-là et d'être capable de répondre et de trouver justement la bonne solution et de faire évoluer. C'est aussi une remise en question permanente pour tous. Puisque la formation, effectivement, et c'est ce qui est important dans l'atelier ce soir, elle n'est pas que dans l'enfance, elle n'est pas que dans la formation initiale, mais elle est aussi dans l'accompagnement tout le long de la vie, dans les évolutions de carrière, les choix de vie où on a envie d'évoluer, on a envie d'aller vers autre chose, de les découvrir. Donc, comment on accompagne ça sur tous les maillons? Un des réflexes, une des solutions, c'est peut-être effectivement aussi cette question du lien intergénérationnel. Alors c'est des choses qu'on pousse, mais qu'on doit encore nous développer à l'échelle de la ville. Et je vous donne rendez-vous pour pouvoir partager à la fois sur les retours de cet atelier, de ce temps qu'on a partagé ensemble et des différents ateliers qu'on organise sur la ville. Il y aura d'autres temps aussi d'échange. Donc on a fait des déambulations dans la ville, vous l'avez vu. Il y aura aussi des rendez-vous dans les appartements, donc où on pourra aussi aller à la rencontre, explorer aussi ces sujets-là, interroger pour aller aussi alimenter. Et la contribution aussi est possible en ligne. Donc même s'il y a l'atelier ce soir, vous pouvez continuer à contribuer sur l'ensemble de ces questions-là pour venir alimenter effectivement les assises. Et on se donne rendez-vous. Déjà, le premier rendez-vous, j'ai envie de dire, des assises, ce sera le 9 décembre. Ce sera le dernier dans l'enchaînement des ateliers. Mais c'est ce qui nous permettra aussi de pouvoir engager des évolutions qui accompagneront aussi le développement de notre ville. Donc le 9 décembre, je vous propose tous de nous retrouver à partir de 17h30 au Palais des Sports de Nanterre. Et je vous remercie pour votre participation ce soir.
Merci beaucoup.
Ça y est, c'est bientôt le mot de la fin. Avant cela, je vous laisse comme d'habitude avec la lecture de quelques propositions déposées en ligne sur la plateforme participer.nanterre.fr. Vous aussi, allez-y faire un tour et partagez vos idées pour faire bouger la ville.
Nanterre doit favoriser l'accès à toutes les pratiques culturelles, artistiques et scientifiques, et ce, dans tous les quartiers à travers l'ensemble des acteurs de la ville. Les familles aux revenus modestes pourraient être davantage soutenues dans l'accès à la culture et à la connaissance. Nanterre devrait recruter davantage de professionnels du sport pour qu'ils enseignent la pratique sportive dans nos écoles. Songeons également à développer les partenariats professionnels dans nos établissements scolaires. Nanterre devrait conserver la médiathèque Pierre et Marie Curie, dont l'adresse reste centrale et importante pour la ville de Nanterre. Les structures pédagogiques et culturelles de Nanterre pourraient fermer plus tard, les classes de nos écoles pourraient être restaurées et leurs effectifs réduits à la baisse afin de favoriser un bon travail de nos enseignants.
Cette fois-ci, c'est fini. Le prochain épisode de Debout là-dedans sera consacré à la thématique de l'accès aux services publics. D'ici là, à vos agendas, vous êtes tous conviés à la soirée de restitution du 9 décembre au Palais des Sports de Nanterre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans le 4e épisode de Debout là-dedans. Ciao!
Bye! Vous écoutez Debout là-dedans, le podcast des 7e assises pour la ville de Nanterre.